Aie une vision, crois, prie, enseigne-toi, équipe-toi, forme-toi, prépare-toi, travaille et recommence. Quand nous n'avons aucune vision, il est très facile de nous embarquer dans tout et parfois n'importe quoi, au péril de notre vie, notre temps, notre valeur personnelle, nos valeurs intrinsèques, notre santé physique, notre santé mentale, notre santé intellectuelle, notre santé spirituelle, notre santé financière, notre santé émotionnelle et notre identité. Une vision, tu me demanderas qu'est-ce que c'est. Une vision, c'est une boussole qui guide notre vie, nos choix, nos décisions, qui nourrit nos sacrifices, qui guide nos investissements et qui justifie notre temps tout en définissant notre caractère et notre identité. Alors je t'informe encore. Aie une vision. Crois, prie, enseigne-toi, équipe-toi, forme-toi, prépare-toi, travaille et recommence. Je vais décortiquer avec toi chacune de ces étapes, maintenant que je t'ai expliqué ce que c'est qu'une vision. Nous avons tous une vision, nous avons toutes une vision. Et nos visions, bien que personnelles, sont censées participer à cette toile humaine qui sera bienveillante et bénéfique pour chacun d'entre nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes la solution de tout un chacun par rapport aux problèmes de Dieu, par rapport à ses besoins. Oui, Dieu a des besoins. Voilà pourquoi nous sommes, chacun et chacune d'entre nous, son moyen de faire notre part, sa solution pour résoudre un de ses problèmes. N'est-ce pas magnifique de pouvoir être en partenariat avec lui, le créateur de l'univers, celui qui normalement n'a pas besoin d'aide. Il s'intéresse à chacun de nous et à chacune de nous parce que nous sommes ses enfants. Et il nous permet de prendre part à tout ce qui est dans ce cosmos et de mettre notre pierre à l'édifice de la continuité, de la durabilité de cette magnifique aventure, expérience qu'est l'humanité et son environnement qu'est l'univers. Alors avec toi, si tu le veux bien aujourd'hui, si tu le permets, nous allons commencer à nous intéresser à ces étapes. Ces 8 étapes que j'ai citées. Croire, prier, s'enseigner, s'équiper, se former, se préparer, travailler et recommencer. Avoir une vision, c'est déjà la première des bases. Parce que sans la vision, comme je l'ai dit, ce qui est une boussole, nous sommes perdus. La vision, en notre terme, c'est ta raison d'être, c'est ton objectif, c'est ce à quoi tu aspires, c'est quelque chose qui te guide, quelque chose que tu portes en toi, quelque chose que tu vas porter à la vie. Donc nous avons tous et toutes des visions différentes et aucune n'est banale. Toutes en valent la peine. Parce que c'est pour cela que nous sommes ici. Les oiseaux chantent. L'herbe pousse et fane et pourtant elle a son utilité. Le soleil se lève chaque jour. Une fleur va fleurir. Faner et mourir. On pourrait penser qu'elle n'a aucune utilité, mais chaque chose a son utilité. Alors je te conseillerais de prendre du temps avec toi pour savoir Quelle est ta vision? Quelle est cette chose qui t'anime? Quelle est cette chose que, même si on ne te paie pas, tu veux porter à la vie? Ce truc qui te porte, qui t'anime, quand tu en parles, quand tu le fais, quand tu le vois dans tes pensées. Quelle est cette chose qui te tient éveillé la nuit ou qui te réveille le matin? Quelle est cette chose que même quand tu es abattu, elle te permet de te relever, d'aller au-delà de ta zone de confort, de tes peurs, de tes propres critiques, de faire face aux obstacles, aux adversités, d'aller au-delà, de te surpasser, de surmonter ce qui te semble impossible. C'est ça, ta vision. Maintenant que tu as décelé ce qu'elle est, je veux juste te rassurer que certains d'entre nous et certaines d'entre nous, nous aurons une seule vision pour toute notre vie. Et c'est génial. Et certains d'entre nous, comme certaines d'entre nous, nous aurons une vision au fur et à mesure des saisons de nos vies. Une saison de vie ne dure pas forcément 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, 10 mois. Ça peut être le cas, comme ça peut durer quelques années ou quelques semaines. Alors ne t'inquiète pas si tu as plusieurs visions ou si au départ tu ne pensais qu'en avoir une et tu te rends compte que cette vision, c'est comme si elle portait plusieurs graines en elle. Et qu'une fois que tu en as planté la première, quelque chose d'autre a éclos qui t'emmène à gravir une autre montagne avec ses obstacles, avec son processus qui te révèle, son chemin qui peut être laborieux mais magnifique et qui t'emmène au sommet de tes capacités dans un autre domaine de ta vie que tu ne savais même pas qui résidait en toi. Il y a des gens que nous connaissons mondialement pour une seule chose, un seul talent, un seul don. Et c'est utile, et c'est magnifique. Et il y en a d'autres qui ont plusieurs dons, plusieurs talents, et qui ont pris le temps, saison après saison dans leur vie, de peaufiner ce talent, d'apprendre à se connaître, d'explorer ce talent, ou ses talents. Et enfin, d'exercer pleinement tout leur potentiel. L'idée ici, à travers ce podcast, c'est de te donner une pièce du puzzle, de la connaissance qui t'est requise pour faire croître la personne dont ta vie a besoin, pour développer les zones négatives de ta vie pendant ta période sombre de gestation, afin d'emmener cette image, cette vision à la lumière, au bon moment, au moment pour lequel tu as déjà été prévu. Alors nous allons continuer. Maintenant que tu as décelé ta vision et que tu sais que tu peux en avoir une seule pour toute ta vie comme plusieurs et que ça va demander que tu les peaufines, que tu prennes du temps avec toi à découvrir ton identité, à découvrir que ton identité a aussi plusieurs couches, un peu comme un oignon, et que l'idée et l'idéal est que tu ne meurs, tu ne partes de cette terre qu'après avoir déroulé complètement toute ton identité, tout ton potentiel, tous tes dons, tous tes talents, toutes les solutions ou la solution que tu es. Que tu pars en étant vide de la bonne manière, en ayant planté tout ce que tu avais en toi, dans ce monde, auprès des personnes pour qui ton don est destiné, pour qui ta solution est nécessaire, la solution que tu es. J'espère que ceci t'édifie et que cela te parle, parce que maintenant nous allons passer à l'étape qui est nécessaire pour que cette vision voie le jour, c'est-à-dire qu'il faut que tu crois. Alors il faut que tu aies de la foi en toi, la foi dans tes capacités, la foi dans tes talents, la foi dans tes dons. Aujourd'hui, nous appuyons sur l'interrupteur machinalement. Le fait d'avoir de l'électricité, de la lumière, surtout pour ceux qui en ont la possibilité, qui y ont accès, qui ne vivent pas dans des zones où l'électricité est difficile ou rare, nous sommes bien contents et bien contentes de pouvoir l'utiliser. Cela nous sert pour tellement de choses. Quand nous sommes en Occident, l'électricité sert pour plus qu'éclairer une maison, la rue. On s'en sert pour charger non seulement son téléphone, ses écouteurs, son laptop, pour brancher la télé, le congélateur, le réfrigérateur, le climatiseur, toutes sortes d'appareils dont nous avons besoin, mais encore plus spécifiquement pour les pays où en Occident, où l'introduction d'une autre manière de se mouvoir par des véhicules électriques, tels que la voiture, le vélo électrique, eh bien l'électricité est requise. Mais cette électricité, cet interrupteur que nous, sur lequel nous appuyons si machinalement, ces prises que nous branchons si machinalement, cela a requis une vision d'un homme, Thomas Edison, qui a dit qu'il n'a pas échoué 10 000 fois. Il a appris les 10 000 manières par lesquelles son projet ne marchait pas. Et moi, je dirais qu'il a appris les 10 000 manières qui étaient nécessaires pour la pérennité de son projet. Tu sais, on se dit que si on tombe au départ sur les obstacles, sur les épreuves, sur l'adversité, sur tout ce qui ne marche pas, c'est que ce domaine n'est pas fait pour nous, c'est que cette chose n'est pas faite pour nous, c'est que ceci, on n'est pas la bonne personne pour cela. Et si nous adoptions la mentalité de Thomas Edison, s'il n'avait pas essayé encore une fois de plus, aujourd'hui, tout ce que nous déployons, tout ce que nous utilisons, nous ne le ferions peut-être pas, ou alors peut-être qu'une autre personne serait venue, telle que Nikola Tesla, et l'aurait faite, ou pas. Peut-être que ça aurait pris encore quelques dizaines d'années ou une centaine d'années. Ça aurait peut-être eu un retard avant que l'électricité ne soit aussi courante qu'elle l'est aujourd'hui. Le jeu de mots est fait exprès. Mais ce que je veux dire au-delà de ça, c'est la foi, la ténacité dont il a fait preuve pour que cette vision voie le jour. J'utilise son exemple parce que on peut s'identifier à cela, à ce que l'électricité, nous l'utilisons tous les jours. Et donc c'est quelque chose qu'on sait être utile et qui est universellement utilisé, et qui sera donc facilement compréhensible dans cet exercice, dans ce partage que je suis en train de te faire. Si nous regardons le fait de rencontrer des problèmes au départ, non pas comme l'invalidation de notre vision, mais au contraire comme une étape nécessaire de validation de notre projet, cela change toute la donne. Qu'est-ce que je veux dire par là? En trouvant les 10 000 manières par lesquelles l'électricité ne fonctionnait pas, ça lui a permis de mettre en place un système qui aujourd'hui est pérenne, qui est réplicable dans toutes les nations de la Terre. Et si tu regardais ton cheminement vers la naissance de ta vision de cette manière, chaque problème que tu vois, que tu rencontres, t'aide à mieux concevoir ta vision et non à l'invalider. Cela ne signifie pas que ce n'est pas possible, cela ne signifie pas que tu t'es trompé, que tu as mal compris ce que Dieu t'a dit ou t'a confié. Non, si Dieu t'a confié cette vision, s'il t'a conçu pour cela, s'il t'a créé, s'il t'a donné naissance au travers de tes parents, qu'il a déjà choisi pour cette vision, pour que tu puisses apporter cette vision à la vie, c'est parce que lui, il croit en toi. Ça te choque ? Moi aussi, la première fois que j'ai entendu quelqu'un dire que Dieu croit en moi, j'étais choquée, je ne savais même pas qu'il y avait un tel concept qui existait. Tu vois, je n'avais été éduquée que dans la conception que nous, les êtres humains, nous devions croire en un Dieu. Quelle que soit la foi exercée par les divers êtres humains que nous sommes, je ne savais pas qu'il y avait une réciprocité et que Dieu aussi peut croire en nous. Tu me diras, comment se fait-il que Dieu puisse croire en nous? C'est lui Dieu. Il ne peut pas croire en nous des êtres humains limités, etc. Quand tu as le projet d'avoir des enfants, ou si tu en as déjà, tu crois en eux dès le départ, même quand ils ne peuvent absolument rien faire pour eux-mêmes et que tu dois tout faire pour eux. Tu crois en eux, tu crois en ce qu'ils ont en eux. Quand tu arrives à déceler leur potentiel, leur capacité, tu t'émerveilles. Chaque personne, chaque parent, chaque membre de la famille s'émerveille au moment de la croissance de chaque enfant. On applaudit les premiers pas. On encourage l'enfant à marcher. On est heureux de savoir que cet enfant est capable de s'asseoir, que ses dents sont sorties, qu'il ou elle sache se moucher. Parce que cela signifie que sa croissance se passe bien et que cet enfant acquiert les connaissances et les compétences nécessaires pour être autonome, indépendant demain. Et que ce qu'il a ou ce qu'elle porte en lui verra assurément le jour. Dieu t'a créé, il sait ce qu'il a mis en toi. Alors il croit en toi parce que lui-même il croit en lui. Et que tu es son enfant, tu es sa représentation. Le jour où tu auras des enfants, si tu en as déjà, tu sais que ton enfant porte au moins 50% de ton ADN. Et donc ce qu'il y a de bon en toi, ton intelligence, ta personnalité, couplée avec celle du papa ou de la maman, produit un nouvel ADN qui a au moins ces ingrédients-là. Alors si tu es doué en maths, que tu es un artiste accompli, si tu es doué avec tes mots, si tu as une faculté à comprendre les ingrédients culinaires et à faire d'un simple repas un festin, il y a de fortes chances que ton enfant ait certains de ces ingrédients en lui et qu'il peut l'emmener à encore un niveau plus exceptionnel. Donc Dieu croit en toi. Il sait ce qu'il a mis en toi. Les épreuves que tu rencontres ne sont pas faites pour te détruire, mais pour te révéler à toi-même. Pour que tu puisses croire en toi, pour que tu puisses croire en tes capacités, pour que tu puisses croire en tes dons et en tes talents. Comment sauras-tu ce que tu as à l'intérieur de toi si ce n'est pas activé? Si quelque chose ne te force pas à les activer? Comment sauras-tu le caractère que tu as face à telle ou telle chose? Comment sauras-tu comment tu vas répondre, comment tu vas gérer telle situation, telle chose? Comment tu feras face à ceci ou à cela, aux imprévus? Comment sais-tu si tu sais planifier les choses, si tu n'as jamais eu d'occasion de planifier quoi que ce soit? Comment sais-tu si tu peux être discipliné, focalisé, déterminé, constant, si tu n'as jamais l'occasion de le faire? Les occasions ne viennent pas que par des opportunités que nous considérons être positives, mais aussi par des opportunités qui doivent être négatives dans un certain sens pour nous permettre justement de savoir gérer les risques et les problèmes. En trouvant les 10 000 manières par lesquelles l'électricité ne fonctionnait pas, cet homme et son équipe ont pu mettre en place un système, des procédures qui font en sorte qu'aujourd'hui, on appuie sur l'interrupteur machinalement. On branche les prises machinalement. Et on sait quel est le voltage qui est nécessaire pour que l'ampoule ne grille pas. On sait quels sont les filaments qui sont nécessaires, les fils qui sont nécessaires, le type de verre qui est nécessaire pour l'ampoule. On connaît la durée de vie de l'ampoule. On sait ce qu'il faut faire pour ne pas s'électrocuter, pour qu'il n'y ait pas de court-circuit, qu'il n'y ait pas d'incendie. C'est à travers ce qui était considéré comme des échecs, des trucs négatifs, qu'il a pu développer dans sa période de gestation et d'obscurité quelque chose qui aujourd'hui produit la lumière. Et il en est de même pour toi. Je vais te dire qui d'autre croit en toi. Au-delà du fait que toi, tu dois croire en toi et que les épreuves sont faites pour pouvoir te permettre de découvrir ce que tu portes afin de confirmer et d'enraciner ta propre foi en toi et en tes capacités, Dieu croit en toi. Nous avons déjà établi cela. Le troisième être qui croit en toi, c'est l'ennemi de ton âme, communément appelé Satan ou le diable. Ça te choque? Moi aussi, ça m'a choqué. Le diable croit en toi. Il n'emmènerait pas autant de problèmes, autant de difficultés pour te décourager, pour te détourner de la vision que tu as s'il ne savait pas que tu en avais la capacité. Qui jette des pierres à un arbre qui ne porte pas de fruits? Qui? Personne, n'est-ce pas? C'est parce qu'il y a du fruit en toi, il y a des graines en toi. Alors il ne va pas attendre que tu portes du fruit. Il va commencer soit dès ta naissance, parce que c'est plus facile de tuer quelque chose qui est en gestation, en incubation, que quelque chose qui est déjà solide, qui est enraciné, qui sait qui il est, qui elle est, ce pourquoi elle ou il est sur cette terre. Alors il s'attaque déjà dès l'enfance. Voilà pourquoi certains d'entre nous naissons dans des foyers qui nous donnent un mauvais départ ou un départ très complexe ou très compliqué. Comme ça, nous serons tellement distraits par toutes les difficultés du quotidien à juste essayer de survivre avec des problèmes primaires et basiques comme juste essayer de se nourrir, qu'on n'aura pas le temps d'avoir une vision. Et certains d'entre nous, ces mêmes problèmes, si on les voit de la bonne manière et qu'on les embrasse, ils vont être le terrain par lequel les graines qui sont en nous vont être plantées pour donner naissance aux solutions que nous sommes. Il n'y a pas mieux que celui qui a vécu une situation pour y apporter la lumière. Il n'y a pas mieux que celui qui est passé par une période sombre, par l'obscurité, pour comprendre la nécessité de la lumière et comment la porter. Je ne sais pas ce que Thomas Edison avait vécu dans sa vie, qui a fait que 10 000 échecs plus tard, il continue toujours de persévérer. Et qu'il ait pu même avoir ce genre de mentalité de voir que derrière chaque problème, il y avait une solution. Et que chaque problème l'enseignait, lui enseignait une solution et était une marche de plus qu'il gravissait sur l'escalier. Mais ce qu'il a vécu lui a donné cette ténacité, cette foi en lui, en ses capacités, en sa vision. Et aujourd'hui, il a apporté la lumière dont chacun de nous bénéficions. Tout ça pour dire que la solution que tu es, elle n'est pas juste pour toi. Elle est faite pour éclairer d'autres personnes. Thomas Edison est mort, je ne sais même pas ça fait combien de temps. Mais nous profitons toujours de ses connaissances, de sa vision. Alors il est important et crucial que toi aussi tu découvres la tienne. Il y a des gens qui t'attendent, même des siècles plus tard. Il y a des personnes qui seront au bénéfice de ce que tu vas produire, de qui tu es, tu dois te produire, tu dois te donner naissance. Tu dois te cultiver. Tu dois entretenir ta vision et regarder les difficultés différemment. Pour ceux qui sont croyants, qui ont foi en Dieu, qui marchent ou qui reconnectent avec leur foi dans la chrétienté, la deuxième étape est la prière. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, vous êtes bienvenus sur ce podcast. Il n'est pas nécessaire d'être croyant ni d'être chrétien pour écouter le partage des connaissances que je fais. Si jamais le fait que je dise Dieu, Jésus, et que je partage la foi ne vous convient pas, je veux juste partager avec tous ceux qui écoutent mon propre parcours personnel et ce qui m'a aidé, ce qui m'a enseigné. Alors, en ce qui concerne la prière est ce moment de conversation avec celui qui t'a créé, celui qui te connaît plus que toi-même en fait. Ce n'est pas passer du temps avec des gens qui sont en train d'apprendre à te connaître, mais c'est passer du temps avec quelqu'un qui te connaît mieux que toi-même, parce qu'il t'a créé. C'est un peu comme si aujourd'hui on allait passer une heure, une minute, quelques secondes, cinq minutes, un quart d'heure, avec celui qui a inventé le gadget que nous utilisons tous les jours, ou la chose dont nous ne pouvons pas nous passer, et que cette personne nous expliquait complètement comment l'utiliser. Quel bénéfice en gain de temps ce serait pour nous, n'est-ce pas? Alors la prière, c'est tout simplement ça, cette conversation. Peu importe où tu te trouves dans ta vie, peu importe que ce soit le désordre complet, peu importe que ce soit terrible ce que tu vis, joyeux, anodin, c'est juste une conversation avec ton père, avec celui qui t'a créé. Tu peux partager tes bons moments comme tes mauvais moments. Tu peux poser des questions. Et il te répond. Il répond à chacun de manière différente. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, nous sommes non seulement différents, mais ce qui va, par exemple, moi m'interpeller, ne va pas forcément t'interpeller toi. Donc, Dieu nous connaissant, il va te parler de la manière qui va t'interpeller toi, qui va, sans aucun doute, te faire comprendre que il t'a parlé. Et pour que tu puisses reconnaître sa voix, c'est tout simplement comme quand tu passes du temps avec un membre de ta famille ou tes amis. Tu sais reconnaître leur voix même quand ils ne se sont pas présentés, avant même d'entendre même le son de leur voix. Tu peux reconnaître les pas d'une personne n'est-ce pas? La manière dont quelqu'un descend les escaliers, tu sais, ah, ça c'est un tel avant même de l'avoir vu. Tu peux aller dans une pièce et savoir qu'un tel a été là, à l'odeur de son parfum. Tu peux sentir les draps d'une personne et avoir son odeur corporelle et savoir, ah, il y a un tel qui était là. Un tel a dormi de tel côté du lit. Parce que tu passes du temps avec une personne, tu sais reconnaître. Quand tu vis avec plusieurs personnes dans une maison, tu reconnais les attentions de chacun. Ces personnes n'ont même pas besoin de laisser une note avec leur nom pour que tu saches que, ah, le fait que ma tasse de chocolat chaud soit déjà préparée, ça c'est un tel qui a fait ça. Un tel a mis mon téléphone à charger, j'en suis sûre que ça c'est X, ça c'est Y qui l'a fait. Et on n'a même pas besoin de leur demander, on peut juste aller dire « Ah merci d'avoir chargé mon téléphone, je m'étais endormie. » Ça m'a été bien utile. Il en va de même avec Dieu. Plus tu passes du temps dans sa présence, dans sa parole, plus au fur et à mesure que tu grandis, pas grandir physiquement, mais grandir en âge spirituel, en maturité spirituelle, plus il va te parler, d'une manière encore plus concrète. Si tu es un bébé spirituel, la manière dont on parle à un bébé n'est pas la manière dont on parle à un enfant de 5 ans, à un adolescent, à un adulte, etc. Il en va de même dans ta progression avec Dieu. Alors ne compare pas la manière dont il te parle à une personne qui a un âge spirituel différent de toi. L'âge spirituel n'a rien à voir avec l'âge physique. Une personne peut avoir 15 ans et avoir un âge spirituel qui est très mature. Une autre personne peut avoir 60 ans et peut être un bébé spirituel. La prière est ce moment, cette conversation, cette intimité, ce cocon dans lequel tu viens et tu es transformé. Tu reçois des instructions. Tu parles à Dieu comme tu parleras à ton Père. Tu n'as pas besoin de grands mots, à moins que ce soit la manière dont tu veux lui parler. Tu n'as pas besoin de grandes formules. Tu peux l'appeler comme tu l'appelles. Papa, Baba, Abba. Et lui parler de manière comme tu parles. Tu n'as pas besoin d'avoir un jargon particulier, d'avoir d'abord lu toute la Bible, de connaître tous les versets, avant de commencer à lui parler. Ne trouves-tu pas magnifique qu'à un certain stade de la croissance des enfants, ils parlent dans leur langue et ils sont persuadés qu'on les comprend. Et nous, on leur répond. On leur répond toujours. Un enfant pleure, et on est capable de dire « Ah, ce bébé a faim. » Le même son, quelques minutes plus tard, on dira « ce bébé veut qu'on change sa couche. » « Ah, là le bébé est fatigué. » « Ce bébé veut dormir. » Etc. etc. À ce moment précis, c'est le seul langage dont ce bébé est capable. Et nous, les adultes, on est capable de comprendre et on le rencontre au niveau de son besoin, n'est-ce pas? Plus tard, quand l'enfant commence à babiller, même chose. Il ne dit toujours pas un seul mot dans la langue que nous parlons, en français, ou quelle que soit la langue dont on est natif, mais nous comprenons le bébé. Et il continue à nous parler. Plus nous avons une interaction avec cet enfant, plus l'enfant se sent en confiance et continue à babiller. Quand l'enfant commence à parler, évidemment, il ou elle fait des fautes, ne construit pas les phrases correctement. Ça ne nous empêche pas de répondre. On répond toujours. On le corrige avec amour, avec douceur. Cela ne signifie pas que parce que la phrase n'était pas construite correctement, nous n'allons pas répondre à ses besoins. Voilà ce que, comment tu peux voir la prière. Je partage avec toi, moi-même, ce que j'ai eu à apprendre, ce que j'ai eu à faire. Parce qu'avant, j'étais super intimidée et ne comprenais pas ce que c'était que la prière. Je me disais que je n'avais pas tous les bons mots, le bon jargon, qu'il fallait d'abord que j'apprenne bien, que je connaisse tous les versets par cœur, que je vienne et que je connaisse les bonnes formules. C'est peut-être parce que je ne connaissais pas les bonnes formules ou le bon horaire de prière, que la connexion Wi-Fi spirituelle ne passait pas. Et voilà pourquoi les choses ne fonctionnaient pas dans ma vie. Jusqu'à ce que j'ai réussi à comprendre que la prière, c'est un peu comme le chargeur de ton téléphone. Tu te connectes, tu te recharges, tu reçois et tu donnes. Tu te décharges et tu prends les instructions. Tu te nourris, tu discutes. Parfois, quand nous chargeons nos téléphones, on veut juste une barre, 1%. Parfois, on veut 5, 10, 15, que la moitié du téléphone fonctionne en fonction de ce que nous allons faire, dans l'heure, dans la journée. Parfois, nous voulons sortir avec le téléphone chargé à 100%. Voici comment je te permets de percevoir la prière, parce que c'est ainsi que moi je le vois. Il n'y a pas une durée précise, il n'y a pas un horaire précis. Il y a juste la recharge dont tu as besoin. Tu te connectes. Si tu n'as besoin que d'1%, eh bien vas-y pour 1%. Et ainsi tu progresses. Il n'y a pas de notes. Tu n'as pas à être le premier ou la première de la classe. Tu n'es pas non plus le cancre. Tu construis tout simplement ton développement, ta croissance spirituelle. Et peu importe l'âge spirituel que tu as, le langage que tu as, ton Père te répondra toujours de la manière dont il sait que tu peux comprendre. Maintenant que ceci est établi, nous passons à le fait qu'il est nécessaire que tu t'enseignes. Parce que tu vois, prier, c'est prendre des instructions, c'est avoir une conversation, c'est aller se recharger. Une fois que tu as rechargé ton téléphone, que tu l'as connecté, que tu l'as rechargé, que tu l'as branché et qu'il a reçu la charge qui lui est nécessaire pour pouvoir fonctionner, tu vois, comme la prière, c'est la charge qui est nécessaire pour que tu puisses fonctionner, tu reçois tes instructions, il faut maintenant passer à l'application. Tu ne peux pas juste passer ton temps à prier, tu reçois des instructions et tu ne les appliques pas. Et ensuite tu te demandes pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Selon l'instruction que tu auras reçue, il faut que tu l'appliques. Si tu reçois qu'il faille que tu suives une nouvelle formation, que tu fasses une reconversion professionnelle, que tu ailles dans un nouveau boulot, que tu dois postuler, que tu dois aller dans telle école. Une fois que tu as reçu l'instruction, si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Tu ne peux pas en vouloir à celui qui fait l'annonce du loto de ne jamais dire que c'est toi qui as gagné. Quand tu ne joues pas au loto, tu ne vas jamais acheter le billet, le ticket, tu ne mets pas les numéros, tu ne fais pas ce qu'il faut, tu as juste le souhait, ah je prie qu'un jour je gagne au loto. Mais tu n'achètes jamais le billet, tu ne fais pas les actions qu'il faille. J'utilise ici un exemple ludique pour qu'on puisse tous comprendre, n'est-ce pas ? Et puis désacraliser le fait que, oh mon Dieu, comment tu peux dire que la prière ce n'est pas suffisant, que tu ne peux pas juste prier et puis que va-t-il se passer ? Le ciel va s'ouvrir et la magie va opérer ? Non. Mon grand-père, mon feu grand-père, avait pour habitude de dire deux choses. Il disait, tu pries, mais ensuite tu dois te mettre au travail. Tu veux une chaise ? Dieu ne va pas descendre de la terre, du ciel et te donner une chaise. Il a mis en place les matériaux. C'est maintenant à toi. Si tu veux par exemple une chaise en bois, eh ben, il y a le fer. Tu vas devoir construire la hache. Il y a l'arbre. À partir de là, eh ben, tu peux commencer. Il a mis l'intelligence en toi, il a mis le savoir en toi. Ces graines sont plantées en toi, tu dois maintenant les utiliser pour fabriquer ta chaise. Mon feu grand-père disait encore, tu veux manger du poulet rôti ? Tu ne peux pas juste dire, Seigneur, j'aimerais manger du poulet rôti, et puis le ciel va s'ouvrir et le poulet rôti va tomber du ciel. Non. Dieu a créé le poulet, il a créé la capacité en toi de créer le feu et les outils qui sont nécessaires pour que tu puisses manger le poulet rôti. Tout ça pour dire qu'après la prière, après avoir reçu tes instructions, après t'être rechargé, après t'être connecté au wifi spirituel qui est le Saint-Esprit, et bien à ce moment, ce qu'il t'a dit de faire, pour cette saison, pour cette journée, pour cette heure, pour cette minute, ça passe par l'enseignement. Tu reçois une instruction, il faut maintenant que tu puisses t'enseigner, être équipé, te former et te préparer. Ce sont des étapes nécessaires. Dans l'exemple, par exemple, d'un médecin, il a la vision d'être médecin, on voit en lui qu'il ou elle a le don. Cette personne y croit. Elle prie, par exemple, pour rentrer dans la bonne école, pour avoir les fonds nécessaires. À un moment, elle ne peut pas juste passer de l'étape avoir la vision, croire et prier à la partie où elle se met juste à travailler en tant que médecin juste parce qu'elle est un génie et que tout le monde sait que cette personne a en elle le génie de la médecine. Aucun et aucune d'entre nous ne voudra être son premier patient, ne voudra rester sur la table d'opération en apprenant que cette personne ne s'est pas enseignée, n'a pas été enseignée, ne s'est pas équipée, n'a pas été formée, ne s'est jamais préparée, n'est-ce pas? Alors c'est tout à fait normal que toi aussi tu suives le même processus. Tu t'enseignes, tu es enseigné, tu te soumets au temps qui est nécessaire pour être équipé, pour être formé et pour te préparer pendant ta période de gestation. Aucun et aucune d'entre nous n'a envie d'avoir un bébé prématuré. C'est dangereux. C'est dangereux pour l'enfant. C'est une inquiétude pendant des années sur la croissance de cet enfant. Nous voulons tous avoir un enfant qui naît en bonne santé, pour qu'il soit le plus autonome possible et qu'il ou elle puisse croître tranquillement. Alors généralement, une femme enceinte et son époux, son mari, quand ils sont enceintes pendant les 9 mois, peu importe la fatigue, ils veulent arriver au bout des 9 mois. Donc, tout ça pour te dire qu'il y a des étapes qui sont nécessaires et que tu ne dois pas les sauter juste parce que tu as prié, parce qu'il y aura un désastre. Ce que tu portes en toi, la vision que tu portes en toi, surtout le fait qu'elle va être utile pour d'autres personnes, signifie que tu as une responsabilité en toi. Alors, aie une vision, crois, prie, enseigne-toi, équipe-toi, forme-toi, prépare-toi. Et ensuite, mets-toi au travail. Et après cela, juste après cela, tu recommences. Et oui, c'est en continu. Même si tu n'as qu'une seule vision pour toute ta vie, elle va requérir que tu maintiennes cette vision, que tu crois en toi, que tu saches que Dieu croit en toi, que tu crois en lui, que tu crois en tes capacités, que tu saches que chaque adversité qui vient, qui est envoyée par l'ennemi de ta vie, l'ennemi de ton progrès, l'ennemi de ta vision, c'est parce que lui aussi y croit en toi. Donc ces adversités ne signifient pas que tu dois abandonner, mais au contraire que tu dois les voir comme des manières de pouvoir avoir un plan de pérennité pour ta vision. Ensuite, tu pries, c'est-à-dire que tu te branches à la source, qui est ton créateur, ton père. Tu te connectes au wifi spirituel, qu'est le Saint-Esprit. Tu reçois tes instructions, tu discutes, tu expliques honnêtement et sincèrement dans tes propres mots, sans aucun jargon compliqué, ce que tu vis, ce que tu désires, ce que tu veux. Tu t'enquiers de savoir auprès de celui qui te connaît et qui t'a confié cette vision, comment il veut qu'elle se passe. Qu'est-ce qui est nécessaire en toi qui doit ressortir pour emmener cette vision à la vie? Et après, tu appliques. Tu t'enseignes, tu es enseigné, tu t'équipes, tu te formes, tu te prépares, tu travailles, tu recommences. Et un jour, tu transmettras cela aussi à quelqu'un. Je veux t'encourager au travers des capsules de douceur, qui est ton spa spirituel digital. Ici, c'est ton havre de paix. C'est une plateforme d'activation ou de réactivation de ta vie, dans ton processus de guérison émotionnelle, du brisement à la plénitude, t'apprenant comment transcender les tragédies et transformer les traumatismes en opportunités de croissance, par le biais du bien-être de ton âme, d'encouragement apaisant, de leçons personnelles en toute transparence et de partage de perspectives différentes, surtout couplées d'outils pratiques de transformation de ton mindset, c'est-à-dire ton état d'esprit, ta mentalité, ta manière de penser, de réfléchir et de prendre des décisions. Les capsules de douceur, le podcast, c'est ton lieu d'apaisement et de transformation personnelle en toute sécurité, pour apprendre à te réinitialiser selon les paramètres originaux de Dieu, à donner naissance à la femme, à donner naissance à l'homme dont ta vie a besoin que tu sois, et à construire la vie de bien-être et de plénitude que tu requiers. Capsule de douceur, mon spa spirituel digital, où mon identité rencontre le but et le sens de ma vie, qui me propulse dans un style de vie, de bien-être et de plénitude holistique. Je voudrais que tu m'accompagnes dans cette prière que j'ai pour toi. Ma prière pour toi, ma douce, mon très cher, aujourd'hui, puisses-tu co-signer le plan de notre Papa d'amour, l'Éternel, pour toi, afin d'activer ton potentiel et d'accélérer ta vie. Que la douceur t'accompagne. Amen. Alors, à ta vision, à ta foi, prêt, prête, active ta transformation personnelle en alignement aux paramètres originaux de Dieu. Pourquoi ? Ma douce, mon très cher, parce que tu es le rêve de Dieu en devenir.